Bonjour à chacun en ce deuxième dimanche de l'Avent, où c'est vrai, nous nous préparons pendant cette période de l'Avent, mais aussi lorsque nous célébrerons Noël, à ces trois dimensions mentionnées par Laurent tout à l'heure, ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il fera pour nous à son retour, et ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Et le texte que j'aimerais vous inviter à lire ce matin, qu'on a déjà médité depuis le début de ce culte, parle de ces trois dimensions justement. Alors je vous invite à relire ce texte qui se trouve en Ésaïe 11, les versets 1 à 10, et qui sera aussi affiché à l'écran si vous préférez le lire comme ça. Alors Ésaïe 11, les versets 1 à 10 nous disent « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, ou de Jessé selon les traductions, et un rejeton naîtra de ses racines. » L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Un texte qui fait partie de ce qu'on appelle les prophéties messianiques, les textes messianiques qui nous annoncent la venue d'un Messie sur cette terre, qui annonçait à cette époque-là la venue d'un Messie, de quelqu'un qui allait délivrer le peuple d'Israël des dangers qui l'entouraient. On sait que c'est un texte messianique tout de suite parce que dès le premier verset, vous avez vu, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ce tronc d'Isaïe, Isaïe, c'est le père de David. Et puis on sait dans l'Ancien Testament qu'il y a beaucoup de promesses, une très grande promesse qui a été faite à David, qu'un descendant, un de ses descendants, régnera toujours sur Israël. Régnera toujours, c'est une promesse qui dépasse les règnes de père en fils d'un peuple terrestre. C'est une promesse vraiment que dans l'éternité, un descendant de David régnera toujours. C'est ce Messie-là qui est attendu. Et on trouve dans le Nouveau Testament, bien sûr, une application très concrète de cette promesse dans le personnage de Jésus. Jésus, alors je passe un tout petit peu vite à cause du temps, mais voilà. Jésus, si vous lisez les généalogies de Jésus qu'on trouve au début de l'évangile de Matthieu et au début de l'évangile de Luc, on trouve une généalogie qui passe du côté de son père et une généalogie qui passe du côté de sa mère. Et les deux remontent jusqu'à David, donc jusqu'à Isaïe aussi, Jessé. Jésus, autant par sa mère que par son père terrestre, est ce Messie attendu, ce descendant de David, d'Isaïe, qui vient délivrer le peuple. Et il y a d'autres textes encore, beaucoup d'autres textes dans le Nouveau Testament qui confirment que ce Messie dont nous parle Ésaïe, est Jésus. Par exemple, Apocalypse 22, 16, où Jésus lui-même dit « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Voilà, directement, le tableau est dressé. C'est ce Jésus que nous annonce le texte d'Ésaïe. Mais à quoi ressemblera ce Messie, ce Jésus, en dehors du personnage de Jésus qu'on connaît? Qu'est-ce que le texte nous dit? Le premier élément qui est frappant aussi, on l'a entendu au début de la louange, c'est cette notion de rameau, de rejeton, quelque chose de complètement vulnérable, un rameau qui sort d'une souche solide, mais qui vient comme une petite pousse, vulnérable, faible. Le texte ne nous dit pas « Voilà, le Messie sera un grand guerrier qui sortira des rangs, qui sera plus fort que les autres, armé, qui pourra combattre. » Non, le texte nous parle de quelque chose de vulnérable. Et là encore, ça nous prépare en fait à notre célébration de Noël avec ce petit bébé qui est venu parmi les hommes de façon vulnérable. Et tout comme un rameau, un rejeton a besoin de la souche sur laquelle il est pour pouvoir puiser ses forces et grandir, de la même manière, lorsque Jésus est venu en tant que petit bébé, il avait lui aussi besoin de ses parents, des personnes qui l'ont aidé à grandir, à prendre connaissance de sa mission, pour devenir ensuite peut-être un grand arbre, ou disons en tout cas le personnage qu'il est devenu, le Messie qu'il est devenu pour le peuple d'Israël. Un personnage vulnérable. Et en même temps, dans ce texte, il y a un grand paradoxe, parce que ce personnage vulnérable a aussi toutes les caractéristiques qu'on attendait d'un roi de l'époque, et en particulier l'Esprit de l'Éternel qui repose sur lui. Le verset 2 nous le dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. À l'époque, les rois étaient oints d'huile par un prophète, par exemple, et ainsi on reconnaissait que l'Esprit de Dieu venait sur eux pour les accompagner dans leur tâche de guider le peuple, de guider en fait le roi lui-même dans sa propre vie et puis le peuple aussi. Et si vous regardez bien ce verset 2, c'est grâce à cet Esprit de Dieu qui repose sur lui que le personnage attendu, là, le Messie, a toutes sortes d'autres attributs qui étaient aussi ses attributs attendus du roi. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel. Tous ces attributs sont mentionnés avec la mention en plus avant de esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, etc., etc. On voit là que ce que Dieu donne, l'esprit qui descend sur ce Messie, lui permet ensuite d'avoir des attributs qu'il peut pratiquer autour de lui, avec le peuple qu'il doit guider, ou pour Jésus, avec les personnes avec qui il est en relation. C'est parce que Dieu équipe de son esprit que ce Messie-là peut partager des attributs autour de lui. Et même, cet esprit, à la fin du verset 2, est aussi un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors cet esprit que Dieu donne, finalement, permet au Messie, à ce personnage, de connaître Dieu en retour. Finalement, Dieu donne tout ce dont ce Messie a besoin. Il donne les attributs dont il a besoin pour exercer son règne et il donne l'esprit qui lui permet d'être en relation avec son Père, avec Dieu. Encore une fois, bien sûr, ce Messie, ce personnage oint dans l'absolu, nous renvoie à Jésus. D'ailleurs, le mot Messie ou le mot Christ signifie « celui qui est oint ». Jésus a été le loin parfait. Et puis, cette promesse d'Ésaïe va même plus loin aujourd'hui. On peut la tirer plus loin grâce au texte du Nouveau Testament, puisque aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous recevons aussi cet Esprit de Dieu. Ce n'est plus seulement un personnage, le roi de l'époque, ou le prophète, ou le prêtre, qui reçoit cette onction particulière et sert d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ce n'est pas non plus seulement ce Messie-là qui reçoit une onction parfaite, mais chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous avons la promesse de recevoir cet Esprit qui nous permet aussi, très imparfaitement, d'utiliser ces attributs divins, ces attributs de Dieu autour de nous, la sagesse, le conseil, l'intelligence, et qui nous permet aussi d'être en relation avec ce Dieu-là. Alors, ces attributs du Messie, ce à quoi ressemble ce Messie, ça fait plutôt envie. On dit « Amen à cela, viens Seigneur Jésus, viens maintenant, on veut découvrir tout ça, tous ces attributs que tu nous offres. » Mais le texte ne s'arrête pas là parce qu'il nous présente aussi ce Messie d'une manière un peu plus dure. C'est un juge, quelqu'un qui apporte la condamnation. Voilà, je vais un tout petit peu trop vite. Quelqu'un qui apporte la condamnation, c'est le verset 4 qui nous le dit. Il jugera les pauvres, il jugera avec droiture, etc. Mais aussi, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Là, on a un peu moins envie de connaître ce Messie-là. L'esprit de sagesse, de conseil d'intelligence, oui, mais le jugement et la condamnation, c'est un peu plus difficile à accepter et à recevoir. Concrètement, voilà le portrait que nous dresse Ésaïe du Messie qui va venir. Et ce n'est pas tout, parce que ce texte d'Ésaïe nous apporte aussi une belle promesse de ce que ce Messie va apporter. Et c'est une bonne partie du texte que nous avons lu qui en parle. Les promesses que ce Messie apporte avec lui sont des promesses de paix et d'harmonie. On va relire simplement les versets 6 à 9. Regardez un peu tous ces couples de prédateurs et proies qui soudainement vivent ensemble dans l'harmonie et la paix. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Voilà la promesse qu'apporte ce Messie. Ni tort ni dommage, plus de danger, plus de prédation. Les animaux vivront en harmonie parce que la nature sera renouvelée et pourra vivre en harmonie. Voilà ce que nous promet ce Messie qui arrive. Et puis, en particulier, ce verset 8 sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit instant, qui nous parle d'enfants et de serpents, parce que basilic, ce n'est pas la plante, hein, c'est le serpent, vous l'avez bien compris. Ce verset 8 nous dit que le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et ce verset 8 a une référence très très claire à un texte de la Genèse. Lorsque Adam et Ève commettent le premier péché, que Dieu comprend cela et décide de les condamner pour cela, eh bien, il y a une condamnation pour Adam, pour Ève et une condamnation pour le serpent. Et dans ce texte-là, Genèse 3, les versets 14 à 15, lisons-les simplement. Je vais le mettre comme ça, voilà. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette malédiction faite au serpent et à la descendance humaine, que le serpent sera toujours comme une blessure pour la descendance humaine et vice-versa, est complètement anéantie par ce texte d'Ésaïe. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir cela, si on comprend que ce serpent, c'est le mal, le péché, le diable, que la descendance humaine, c'est l'humanité entière, nous tous, tout un chacun? Eh bien, ce texte, avec ce Messie, vient nous dire, à l'arrivée du Messie, cette condamnation du mal parmi nous sera complètement abolie, parce que le petit enfant pourra jouer avec la vipère. C'est un langage symbolique qui nous parle de cela. L'arrivée du Messie annonce la restauration du bien, la destruction du péché, l'harmonie de nouveau du plan parfait de Dieu. Et puis cette paix dans le texte d'Ésaïe se décline de beaucoup de manières différentes, hein, la juste justice, la protection des opprimés, la protection des faibles, la fidélité, la sécurité et la présence glorieuse de Dieu. Voilà toutes les choses que nous apporte le Messie. Alors, de toute évidence, la venue du Messie, Noël, est une promesse de paix. Vraiment, j'ai envie de retourner la question. Lorsqu'on regarde les actualités, lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, lorsqu'on entend des bruits de guerre, les réfugiés, des maladies, des accidents, des décès, et même lorsqu'on pense au mal qu'on est capable de se faire les uns les autres, les uns aux autres, volontairement ou non, eh bien je me demande où est cette harmonie parfaite, où est cette promesse de paix du texte d'Ésaïe, sans parler du fait que les animaux ne vivent pas encore dans cette paix décrite par le texte. Où est cette promesse de paix? Puisque Jésus est déjà venu sur terre, où est-elle? Est-ce que le texte d'Ésaïe a été un peu trop optimiste, ou bien s'est trompé? Il a été un peu plus loin que ce que Dieu avait prévu dans son plan? Je crois que c'est simplement que ce texte n'est pas encore complet. Il est encore incomplet dans son accomplissement. Ce texte ne se vit pas seulement à l'instant T de l'époque d'Ésaïe, ni seulement à l'instant T de la venue de Jésus, mais il se décline dans une triple référence, une triple temporalité, on pourrait dire, qui nous renvoie aussi à cette triple temporalité de l'avant qu'on a mentionnée, comme trois étapes du passé, du présent et du futur. Puisque ce texte, c'est vrai, annonce la paix pour la venue de Jésus sur Terre il y a 2000 ans. Et c'est vrai que... ce texte annonce la paix pour la venue de Jésus sur Terre, le passé, pour le présent, c'est-à-dire notre période d'aujourd'hui, Jésus qui vit en nous aujourd'hui, et pour le futur, le retour de Jésus. Et c'est vrai, on voit que lorsque Jésus est venu sur Terre, il a été vecteur de cette paix. Jésus lui-même a apporté cette paix, parce qu'il a délivré le peuple, à l'époque, de certains rituels, de certains sacrifices. Il a aussi apporté la paix de la réconciliation avec Dieu, du pardon des péchés. Il a fait du bien autour de lui, il a montré aux disciples de l'époque, à chacun d'entre nous, comment faire ce bien aussi à notre tour. Jésus a été vecteur de la paix, de la promesse de paix du texte d'Ésaïe lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Mais ça ne s'arrête pas là. On l'a vu, hein, malgré la venue de Jésus, cette paix n'est pas encore complète. C'est que peut-être nous aussi, nous avons un rôle à jouer dans cette promesse de paix. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons peut-être quelque chose à mettre en pratique, des attitudes, ces attributs que l'Esprit nous donne à mettre en pratique pour apporter cette paix autour de nous. Et on pourrait se poser la question, aujourd'hui, moi, vous, nous, toi, sommes-nous vecteurs de cette paix ? Je crois que nous aspirons tous à la justice. C'est une aspiration profonde, la justice. Mais dans quelle mesure la mettons-nous en pratique nous-mêmes ? Est-ce que nous allons toujours, comme la description de ce Messie, au-delà des apparences, au-delà des « oui dire » pour juger ? Ou est-ce que voilà, nous sommes rapides à aller dans le jugement, sur les apparences, sur les bruits que nous avons entendus sur les personnes ? Dans quelle mesure mettons-nous en pratique cette justice ? Quelle place aussi offrons-nous aux plus faibles dans la société ? Aux personnes qui vivent dans des situations précaires ? Aux personnes seules, aux personnes qui sont touchées par le deuil, par la maladie, par la solitude, aux réfugiés qui sont nombreux dans notre région. De quelle manière nous-mêmes apportons-nous cette protection des opprimés ou des faibles ? En cette période de Noël, je crois qu'il y a beaucoup d'actions qu'on pourrait faire pour essayer de nous rapprocher de ce que Dieu nous demande de vivre, d'être vecteur de cette paix. Ouvrir nos foyers, ouvrir nos temps de repas, nos temps de fêtes de Noël, participer aux événements de notre village, aux fenêtres de l'Avent, pour rencontrer, échanger avec les voisins, prendre le temps de la discussion dans la rue, dans notre allée, avec nos voisins. Je pense que cette période de Noël est une période propice pour cela, pour être nous-mêmes vecteurs de cette paix, partager cette paix autour de nous. Et puis, il y a aussi l'espérance de la paix future, avec le retour du Christ, qui sera vecteur de la paix parfaite pour nous. Je ne relis pas ma phrase, mais ce n'est pas grave. Au retour à l'espérance, avec notre espérance du retour de Jésus, eh bien, nous avons l'espérance que cette paix viendra parfaitement. Et si vous avez un doute là-dessus, lisez l'Apocalypse, vous verrez combien l'harmonie et la paix sont présentes dans ce livre lorsque Dieu est parmi son peuple, lorsque la présence de Dieu est suffisante pour qu'on connaisse Dieu et qu'on vive dans la paix. Et c'est cette espérance que nous vivons aussi au temps de Noël, nous rappeler de cette espérance aussi. Voilà les trois dimensions, les trois étapes que nous voulons nous rappeler à Noël. Le retour de Jésus, Jésus qui vit en nous, qui nous demande aussi de partager cette paix. Et puis la paix parfaite qui viendra par la suite. Alors que le Seigneur nous donne de savourer ces trois dimensions, alors que nous nous préparons à Noël, et qui nous apprennent à être nous-mêmes vecteurs de la paix, dans des gestes concrets, dans les attributs qu'il nous donne, dans des attitudes pratiques. Même si elles sont parfois insignifiantes, mais elles pourront toujours rejoindre quelqu'un et apporter cette paix plus loin. Amen.